Bonjour à tous, bienvenue. Il n'y a pas si longtemps encore, on pouvait penser que le rôle de la littérature ou des arts ou des avant-gardes, c'était de faire scandale. Après tout, en grec, le scandalon, c'est la pierre d'achoppement, ce sur quoi on trébuche, et les arts se devaient de nous mettre sous le nez ce que nous ne voulions pas voir. Mais ces dernières années, le scandale a pris une autre tournure, avec l'accumulation de polémiques autour d'auteurs qui ont dit ou fait ou écrit des choses moralement, politiquement condamnables. Que fait-on face à leurs œuvres? Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? C'est pour y voir plus clair qu'avec Lénaïque Bredoux, responsable éditoriale des questions de genre à Mediapart, nous avons voulu recevoir Gisèle Sapiro. Gisèle Sapiro, bonjour. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS, et vous travaillez sur la circulation des œuvres et des idées, en particulier entre littérature et politique, morale et droit. Vous êtes notamment l'auteur de La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, qui était paru en 2011, et Les écrivains et la politique en France, de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie, paru en 2018. Et aujourd'hui, vous posez cette question qui donne son titre limpide à votre nouveau livre. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?
Et comme l'a dit Lise, il est publié à un moment effectivement de forte actualité, qui sont d'ailleurs dans certains cas des exemples que vous développez dans le livre. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ? Est-ce que c'est cette actualité, ce renouveau des polémiques sur cette question qui vous y a conduit, ou est-ce que c'est complètement déconnecté ?
C'est évidemment connecté à l'actualité, mais c'est vrai que ce sont des questions que je travaille de longue date, étant sociologue de la culture et de la littérature en particulier, et que la question du rapport entre littérature et idéologie, littérature et morale, était au cœur de mes travaux antérieurs, que ce soit les écrivains sous l'occupation, leur choix politique, que ce soit les procès littéraires depuis le début du 19e, de manière générale, les rapports entre l'œuvre comme construction sociale et l'auteur comme construction sociale également. Dans La responsabilité de l'écrivain, je prenais comme point de départ l'analyse de Michel Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur, et qui montre que cette identification entre l'auteur et l'œuvre a une histoire qui remonte seulement à quelques siècles et qui a des points d'accrochage importants autour de, d'abord, la responsabilité pénale. C'était ça le renversement qu'il faisait, qui disait que la responsabilité pénale avait précédé l'appropriation de l'œuvre par son auteur, et que cette attribution pénale supposait effectivement, alors c'est une question de responsabilité pour pouvoir poursuivre des écrivains, des auteurs, pas seulement des auteurs qui transgresseraient les limites assignées à la parole dans l'espace public, et en même temps cette responsabilisation a été retournée par les auteurs à partir du XVIIIe siècle, qui ont revendiqué en fait cette responsabilité comme responsabilité morale, mais contre en fait la justice, pour s'affirmer les défenseurs de la vérité contre une parole contrôlée, au nom justement de leur responsabilité à l'égard du public. Donc contre l'État, contre la religion, contre les motifs de poursuite, et leur combat pour la liberté d'expression ont contribué à libéraliser, en fait, ont beaucoup contribué à la libéralisation de l'imprimé et de la presse.
Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, l'actualité des polémiques, que ce soit sur l'écrivain Gabriel Matzneff ou autour des films de Roman Polanski, en quoi ça résonne justement avec ces polémiques aujourd'hui ?
Oui, alors on suppose, et ça fait partie de cette idéologie romantique du créateur, qu'il y a un lien entre la personne, la ville, l'auteur et son œuvre, un lien très étroit, une identification très étroite, et qu'il y a un lien entre ses engagements et son œuvre. Et évidemment, des auteurs comme Émile Zola, quand il s'engage dans l'affaire Dreyfus, il dit que son œuvre a été en défense de la vérité, et que donc cet engagement en défense de Dreyfus, c'est un prolongement naturel de l'œuvre. Mais la question se pose aussi pour des écrivains qui ont été des racistes, des antisémites, voilà. Alors, dans le cas Matzneff, il a fait aussi une idéologie, en fait, de ce qu'il appelle la philopédie, mais qui est caractérisée en droit comme de la pédagogie, pédocriminalité ou de la, enfin, des relations illicites avec avec des mineurs. Et donc, de ce point de vue-là, il se rattache, en fait, c'est un peu différent de Polanski, qui n'a pas fait une idéologie. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'abus d'autorité, en fait, l'abus de leur position et de leur notoriété, de leur position sociale établie pour profiter, en fait, de cette autorité, soit de manière violente, soit de manière pseudo-consentante, parvenir à attirer des jeunes filles. Alors, chez Polanski, il y a un cas pour lequel il a été jugé, qui est un cas grave de le viol a été abandonné, mais c'est suite à une négociation. Mais c'était une jeune fille qui était venue faire, enfin de moins de 14 ans, qui était venue faire une séance photo, donc dans un cadre professionnel. Et Matzneff, lui, c'était un système où il abusait en fait de sa position d'écrivain pour manipuler effectivement ces jeunes filles.
Mais dans votre livre, en fait, vous revenez sur des cas variés, aussi bien, vous évoquez aussi bien Heidegger au milieu du XXe siècle que des cas plus récents, comme ceux que vous venez d'évoquer, celui de Matzneff ou celui de Polanski. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières années, il y a eu une accélération des cas? Est-ce que c'est ça qui vous a conduite dans la continuité de votre travail de recherche à vous pencher spécifiquement sur cette question? On a le sentiment, comme lecteur ou comme spectateur, que c'est une question qui est devenue beaucoup plus prégnante aujourd'hui qu'il y a encore quelques années.
Alors, bon, sur Heidegger, cette question remonte à l'après-guerre, elle a fait débat, elle revient régulièrement, sauf que là, il y a une actualité qui est la publication des cahiers noirs, et donc la preuve noir sur blanc que l'antisémitisme est inscrit dans sa philosophie, ce que les commentateurs heideggeriens ont toujours nié en disant qu'il y a une séparation entre l'œuvre et l'engagement, et même en minimisant cet antisémitisme comme purement ou c'est son adhésion au nazisme comme purement anecdotique ou purement lié à un moment et en soulignant son détachement et sa déception du nazisme. Or maintenant, enfin voilà, il y a un nouveau scandale, mais il y en a eu un dans les années 80, il y a eu des débats dans les années 70. Enfin, c'est une histoire assez ancienne. Je dirais, et puis bon, les affaires de scandales dans la littérature, il y en a toujours eu. Moi, ce que je dirais, que ce qui est plus nouveau, c'est peut-être, alors le mouvement féministe ne date pas de maintenant, hein, il y a eu un mouvement très important dans les années 70, mais il y a quand même maintenant une plus forte mobilisation des collectifs féminins autour de la construction de la cause des femmes et de la question de la représentation des violences commises contre les femmes, agressions sexuelles, violences physiques, et que donc elle s'empare, c'est un nouveau mode d'action collective, de la notoriété, elle profite de la notoriété des artistes pour faire advenir cette cause dans l'espace public, parce que, bon, on connaît les chiffres, mais c'est très peu médiatisé, en fait, il y a très peu de débats là-dessus. Donc on peut dire que c'est de bonne guerre qu'elle construit, qu'elle utilise cette notoriété. Après, je pense qu'il y a aussi la circulation des modes d'engagement américains, enfin états-uniens, qui jouent beaucoup dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui est plus nouveau, et c'est vrai aussi pour les collectifs antiracistes qui aussi existaient. Hein. Enfin, l'antiracisme en France, il a aussi une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais la focalisation aussi sur les productions culturelles, c'est peut-être ça qui est le plus nouveau et qui interroge effectivement des représentations qui semblaient, bon, je pense au débat qu'il y a eu autour de Gauguin, alors c'est pas en France, c'est en Angleterre, enfin aux États-Unis. Gauguin a été exposé par la National Gallery, mais avec un commentaire nous conduisant à voir ce qu'on ne voulait pas voir tout en le sachant, c'est-à-dire que le regard de Gauguin porté sur ces jeunes filles, c'est aussi le regard d'un homme qui abuse de sa position dans des rapports postcoloniaux, dans des rapports de genre inégaux, d'âge aussi, même si effectivement il fait advenir aussi le visage, le portrait, peut-être la subjectivité de ces jeunes filles. Donc il y a une ambiguïté dans ce cas qui a beaucoup moins, à mon avis, dans le cas de Matzneff, même si il prétend aussi faire émerger leur subjectivité, mais en détournant, s'appropriant en fait leur écriture. D'ailleurs, Vanessa Springora le décrit très bien, hein, la manière dont en fait il la nie comme sujet. Elle n'existe qu'à travers l'admiration, l'adulation qu'elle peut avoir pour lui. Donc c'est pour moi, il y a quand même des différences assez notables de ce point de vue-là.
Comment vous expliquez que cette construction des représentations et des productions culturelles et que ça a été, comment vous expliquez que ce soit mis autant à l'agenda aujourd'hui par ces mouvements, et comment vous comprenez la réponse très tiraillée de la société, en tout cas des fortes tensions, des fortes polémiques? On l'a vu au moment de la cérémonie des Césars, avec une très forte polarisation du débat. Voilà, comment vous expliquez cette résistance, ces à-coups, et que ce soit voilà aujourd'hui si important?
Je pense que la cérémonie des Césars, là aussi, en fait, ça a été un lieu pour médiatiser une cause et pour la faire advenir. Le geste, l'acte d'Adèle Haenel a reçu une médiatisation que aucune mobilisation, aucune lutte quotidienne n'obtient. Ça a été très fort et la réaction était très forte parce qu'en fait elle rompait l'espèce de silence organisé de ce milieu, et le fait de récompenser, parce que on peut dire bon d'accord, on va pas forcément censurer les films de Polanski, enfin moi je pense que c'est pas la solution, mais par contre le consacrer au moment où il y a le mouvement MeToo, au moment où ces débats émergent dans l'espace public, c'était comme si on légitimait, on continuait à faire une espèce de silence autour de cet abus organisé, en fait, qui n'est pas sanctionné par aucune déontologie dans le milieu du cinéma. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a des abus dans d'autres milieux, un milieu médical, un milieu juridique, mais en principe, ils sont sanctionnés si on arrive à les dénoncer. Le débat s'est aussi fait actuellement dans la mode, dans le journalisme, ça apparaît un peu partout. Donc là, la question, c'était est-ce qu'on ignore complètement ces circonstances et qu'on donne un César au réalisateur qui a une affaire comme celle-là, une incrimination comme celle-là, avec des nouvelles accusations qui ne sont pas encore avérées, mais c'était une sorte de signal dans le milieu. Et donc la crispation, on comprend aussi la crispation, parce que la crispation, c'est la perte de cette quasi-impunité ou enfin immunité de l'art face à ça. Alors après, il y a des positions variées, hein, dans les défenses de Polanski. Enfin, il y avait des gens qui ne défendaient pas Polanski, qui disaient bon ben il a fait ce qu'il a fait, il a purgé ou pas complètement sa peine, mais il faut séparer ses œuvres cinématographiques qui ne portent pas en fait du tout sur cette question. Et puis il y a d'autres qui ont tenté de le défendre en retournant l'accusation contre les accusatrices. En retournant ça en antisémitisme, ce qui est vraiment assez choquant, en disant...
– Oui, c'est le cas de Pascal Bruckner que vous...
– Voilà, on voit qu'il y a une manière de une mauvaise foi dans la manière de détourner l'argument de Virginie Despentes pour le disqualifier. Évidemment, elle n'a jamais dit ça, et c'est très clair, hein, dans le passage que je cite. Elle parle des milieux du cinéma et de l'argent, elle ne parle pas du tout de Polanski lui-même, et elle parle des investisseurs, en fait, qui n'étaient pas suffisamment rentrés dans leur fonds, et qui donc voulaient qu'il obtienne un César mieux, rentrer dans leur fonds, dans cet investissement.
Mais justement, vous soulignez qu'il y a des résistances à l'encontre qu'un certain nombre de personnes déploient un argumentaire qui vise à résister aux accusations qui peuvent être portées contre ces crimes de pensée ou ces crimes effectifs. Et aujourd'hui, un des lieux de la résistance, c'est la dénonciation d'une cancel culture comme façon d'empêcher de bâillonner les gens. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette question-là? Vous en faites un peu l'archéologie, vous racontez qu'elle vient des États-Unis. Mais comment vous trouvez qu'elle se développe en France et qu'elle se dénonce en France?
Alors le terme même de cancel culture, comme vous savez, c'est venu des gens qui s'opposent en fait à cette pratique. Cette pratique n'est pas limitée à la culture, hein, elle traverse en fait tous les milieux aux États-Unis. Elle passe par les réseaux sociaux, mais on la voit aussi à l'œuvre à l'université. Enfin, c'est vrai qu'elle est hors de contrôle et ça terrifie en fait l'establishment parce que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé par l'establishment justement. Justement, il y a beaucoup de dérives et on peut s'en inquiéter. En même temps, quand j'entends, oui, alors il y a des vies sacrifiées, c'est vrai, il y a des cas. Mais quand on pense à toutes les vies sacrifiées des victimes de viols, d'agressions, ou même de racisme, on peut aussi se dire que c'est un mode de combat qui est peut-être plus inquiétant qui est une dénonciation, c'est une chose, qui est des mesures prises comme des licenciements très rapidement, ce qui se passe aux États-Unis, ça ne se passe pas en France, de gens sans même vérifier les faits, ça c'est sans doute plus inquiétant. Alors si on revient à la culture proprement dit, ma position, c'est que supprimer, en fait, faire disparaître des œuvres qui ont compté, qui ont marqué l'histoire de l'art, de la littérature, du cinéma, de la pensée, c'est faire la même chose que si on ne discutait absolument pas et on les maintenait telles qu'elles, dans tout leur prestige. Parce que c'est faire disparaître à la fois les conditions de production et donc qui ont fait que ces représentations ont pu exister à un moment donné. Et c'est aussi effacer tout l'impact qu'elles ont pu avoir sur la suite. Donc il y a plein de circulations cachées en fait de ces représentations qu'il faut au contraire faire un travail pour les exhumer, donc tout le travail d'anamnèse de cet inconscient collectif de ces représentations coloniales ou de ces représentations sexistes, elle ne peut se faire que dans le débat et dans la discussion de ces beaucoup sont des il y a de grandes œuvres, il y en a des moins grandes, mais dans la mesure où elles font partie du canon où elles ont eu un impact, il me semble que les faire disparaître, c'est ne pas s'interroger ni sur qu'est-ce qui a permis qu'elles existent. Parce qu'elles véhiculent aussi des représentations d'une époque, même si elles ont une autonomie par rapport à ces représentations. Et aussi, comment elles ont continué à reproduire, en fait, ces représentations et à les diffuser, et comment on les retrouve sous d'autres formes dans des œuvres qui s'en inspirent et qui n'ont pas l'air répondre de la même idéologie, des mêmes représentations. Enfin, c'est pas toujours de l'idéologie, hein. Ça peut être cette forme de violence symbolique qui est exercée par des œuvres. Il faut la discuter, il faut la décrire, il faut l'analyser.
Juste pour prolonger ce que vous venez de dire, ça paraît évident, par exemple, si on pense à Heidegger, dire on va faire disparaître Heidegger, je pense semblerait assez absurde à tout le monde. Peut-être que la question est plus difficile dans d'autres cas. Vous évoquez à un moment, par exemple, le choix de rééditer un livre, par exemple les livres de Gabriel Matzneff, à un moment rééditer un livre, ça c'est une autre discussion que d'effacer, c'est promouvoir, c'est un peu comme récompenser Roman Polanski, ou bien on pourrait aussi penser à quels livres on choisit d'éditer et ceux qu'on n'édite pas, quand les éditeurs font des choix ou quand les producteurs choisissent tel ou tel film, tel ou tel projet, ce qui les guide, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et parfois dans le débat public, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il y a cette confusion entre l'idée qu'on voudrait supprimer Heidegger ou l'idée qu'on voudrait questionner précisément ses conditions de production. Est-ce que ça vous semble être le point un peu d'équilibre ou de justesse de ce que vous voulez dire.
Ça me paraît un point extrêmement important, c'est-à-dire la responsabilité des intermédiaires et la décision. Effectivement, on appelle censure le fait de ne pas rééditer, mais il y a tellement d'œuvres qui ne sont pas rééditées, et notamment des œuvres de femmes, des œuvres de minorités, visibles ou pas visibles. Donc dans ce qui a pu être publié et exister dans l'espace public, voilà, il y a un tri qui est fait et il y a un rôle aussi des intermédiaires. Alors, concernant Matzneff, c'est même une interrogation, comment c'est... moi, j'appelle pas ça une œuvre, mais enfin bon, ces publications ont pu exister puisqu'elles sont contraires à la loi. Mais pour moi, c'est pas la question de la loi qui est primordiale dans cette affaire, puisque la loi a pu aussi, censurer les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je pense que c'est pas du même ordre. Dans le cas de Matzneff, c'est quand même quelqu'un qui a fait une œuvre et acquis un statut sur la base d'un système d'exploitation de jeunes filles. Qu'il y ait une connivence de tout le milieu intellectuel pour soutenir cette réputation surfaite, et on voit bien que c'était un système très organisé, de gens aussi qui profitaient de ces réseaux de tourisme sexuel, etc. Ça doit nous interroger sur les intermédiaires et sur les modes de fonctionnement du milieu. Pour le cas de Matzneff, je veux dire, c'est absolument la liberté de Gallimard de ne pas le rééditer. Et en plus, Gallimard s'en est expliqué en disant que c'est la lecture du consentement de Vanessa Springora et sa souffrance qui l'a conduit à prendre conscience. C'est vrai aussi qu'il y a l'ouverture d'une affaire par le parquet. Donc, tout d'un coup...
L'enquête préliminaire pour viol sur mineur qui a été ouverte par le parquet de Paris.
Voilà, et donc et même si les faits sont en partie prescrits, enfin c'est quand même des livres qui tombent sous le coup de la loi de ce point de vue-là. Il y avait une tolérance, mais et une tolérance qui était due au fait, de sa position de soi-disant écrivain reconnu, voilà. Donc et justement, alors quand il s'agit de, moi j'ai écrit contre la réédition des pamphlets de Céline parce que aujourd'hui, rééditer les pamphlets de Céline dans les circonstances de la montée du racisme, de l'antisémitisme, de l'extrême droite, de les publier chez Gallimard, même avec toutes les précautions, même avec les notes de bas de page, etc. Moi, je ne pense pas qu'on va les acheter pour les notes de bas de page. Et je pense que ça risque, du point de vue même juridique, de créer une sorte de précédent, de légitime, d'en faire des sortes de classiques, enfin voilà. Donc en plus, j'ai écrit toute la responsabilité de l'écrivain pour la liberté d'expression, mais j'ai quand même, je pense qu'il y a le discours raciste et xénophobe et antisémite, c'est des discours performatifs, hein, et quand ils sont, je parle pas de la fiction, hein, mais je parle de quand ils sont de manière argumentative revendiqués, ce sont des discours qui ont des conséquences, qui ont des effets pour les populations, pour les groupes stigmatisés et ont des effets nocifs. C'est le cas des pamphlets.
Est-ce que vous diriez la même chose sur des propos sexistes ? Est-ce que vous diriez que une œuvre qui serait empreinte d'une vision très sexiste, une vision très inégalitaire des relations entre les femmes et les hommes provoque, enfin voilà, en tout cas met davantage les femmes en danger ou en tout cas en situation inégalitaire ?
Ben, je le pense, hein, oui. On peut s'interroger effectivement sur le fait que est-ce qu'il y a une corrélation. Alors évidemment, je défends la fiction et l'autonomie de la fiction, mais on peut s'interroger sur le fait que la littérature des best-sellers regorge de crimes en série ou de violences en série contre les femmes et que ce soit plus c'est violent et plus ça fait vent. On peut s'interroger sur qu'est-ce que ça produit dans l'imaginaire. Pourquoi on n'a pas l'équivalent Pourquoi évidemment, quand Virginie Despentes elle écrit Baise-moi, c'est deux filles qui font du serial killer, et donc là, tout de suite, ça apparaît comme une parodie, parce que voilà, ça correspond pas ni statistiquement ni dans les représentations. Donc on peut s'interroger. En tout cas, je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Je dis pas qu'il faut censurer, mais je dis qu'il faut s'interroger sur les effets de la représentation des violences à l'égard des femmes, qui sans doute contribuent. Peut-être pas à la légitimer, mais en tout cas à la banaliser, on pourrait dire.
Du coup, c'est quand même pas compliqué, même si vous soulignez de façon très convaincante l'effet performatif des discours. Mais est-ce que c'est pas piégeux de parler en même temps de gens qui tiennent des propos scandaleux et des gens qui ont commis des actes scandaleux. Mmh. C'est-à-dire que, au fond, est-ce que ça conduit pas à mettre sur le même plan, voilà, des choses qui sont assez différentes ?
Oui, je suis absolument d'accord. Je distingue les cas dans l'analyse. Je pense que les propos qui sont des propos idéologiques, donc, doivent pas être censurés, sauf si, mais de toute façon, le racisme est puni par la loi. Enfin, c'est peut-être la seule restriction, comme je le disais, à la liberté d'expression à laquelle je souscris. Après, des gens qui ont commis des crimes, bon, il y a un vrai débat. Il y a eu un débat à propos de Bertrand Cantat, de savoir, c'est pas ces chansons qui sont en cause, c'est l'acte, alors que les féministes se servent de la notoriété de Cantat pour, c'est parfaitement compréhensible et légitime. En même temps, c'est quelqu'un qui a purgé sa peine, qui a le droit de... c'était pas dans un cadre professionnel non plus. Donc c'est une discussion. C'est quelque chose de vraiment différent. D'ailleurs, je le traite un peu à la marge dans cette affaire, cette discussion. Mais ça interroge aussi la justice, parce que c'est comme toujours le problème de la justice populaire. Enfin, où est-ce que ça s'arrête ? Ça peut échapper au contrôle. Donc, je suis d'accord que c'est pas simple. La réponse n'est pas simple et elle est problématique. L'argument des féministes, c'est de dire que le fait qu'il puisse continuer, vu sa notoriété, c'est comme si on minimisait en fait le crime qu'il a commis de manière certes involontaire. Moi, je peux entendre cet argument. Même si, c'est vrai que spontanément, j'aurais tendance à dire, il y a quelqu'un qui a purgé sa peine. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Polanski, puisque, comme on sait, il n'a pas purgé l'intégralité de la peine. En plus, il y a cette... c'est la loi américaine, mais qui permet, en fait, d'un arrangement à l'amiable pécunier, une réparation financière, ce qui ne serait pas possible dans ce cadre en France. Donc ça pose aussi ces questions-là, voilà. Et puis le fait que dans le cas de Polanski, ça c'est encore une fois, c'est arrivé dans un cadre professionnel. Donc c'est quand même lié à son activité de cinéaste, même si ça n'impacte pas forcément son œuvre cinématographique.
Merci Gisèle Sapiro, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous sur Mediapart pour toutes les vidéos du studio.